Donc c'est 11 rue des Chevaliers à Ixelles. C'est un bâtiment qui est vide depuis plus de 6 ans. Et nous l'avons ouvert en octobre 2000, donc ça fait plus ou moins 8 mois, un truc comme ça. On s'est installé une dizaine au début. En fait, bon, la maison comporte des ateliers et des lieux de vie. Donc, maintenant, on est plus ou moins une quinzaine à vivre. Il y a une salle de danse disponible, il y a une salle de cirque, il y a plusieurs ateliers et des plasticiens qui travaillent. Il y a de la musique, il y a des groupes de musique Orange Casou, il y a Kropouk, il y a plusieurs groupes différents. Il y a plusieurs compagnies de théâtre différentes qui travaillent ici aussi. Des peintres, un peu de tout quoi.
Donc là, en fait, on est explicitement dans un squat artistique
Ouais,
et culturel qui mêle lieu de vie et lieu de travail pour les artistes.
c'est ça, voilà, c'est ça. En gros, c'est ça.
Qu'est-ce qui vous a poussé à venir ici, par exemple?
Oui, bon, alors pourquoi on est là? C'est parce que on s'est pas mal d'entre nous se sont retrouvés un peu à la rue l'année passée, enfin au début de cette année-ci, et on avait tous besoin d'un lieu de travail pour faire nos activités, c'est-à-dire musique, etc. Et alors aussi, certains d'entre nous venaient de l'étranger et avaient besoin d'un logement parce qu'ils étaient étudiants à l'école du cirque ou à l'espace catastrophe, et que bon, ils n'avaient pas les moyens de se payer un appartement en plus des cours. Donc eux aussi ont cherché un logement, on s'est rencontrés et on a ouvert ici, et c'est comme ça que ça a commencé en gros. Donc ça a regroupé plusieurs gens, mais vraiment de plusieurs disciplines, quoi. Et voilà, c'est la démarche de base.
Là, on se trouve un peu dans des problèmes qui sont spécifiques aux artistes. Il n'y a pas que le statut d'artiste, il y a aussi le fait qu'ils exercent des activités assez peu rentables et qui prennent beaucoup d'espace et d'infrastructures pour exercer leur art.
Oui, c'est ça. C'est un gros problème, c'est que bon, par exemple, ben, un groupe de musique qui a besoin de répéter, il lui faut un local plus ou moins sonorisé pour pas déranger les voisins, etc. Que louer des locaux pour amener le matériel, ça coûte très cher. En plus, c'est à chaque répète amener du matériel, le retirer, etc. Donc c'est vraiment une perte de temps, d'énergie et d'argent. Et c'est pour ça que ce genre de lieu est créé aussi. C'est surtout pour ça d'ailleurs. Par exemple, les compagnies de théâtre aussi ont besoin de grands espaces pour travailler. Le cirque a besoin de hauteur, a besoin des choses comme ça. Et c'est des salles qui coûtent généralement assez cher quand on n'a pas de subvention de l'État, quoi. Et bon, comme ici, la plupart des gens ne sont pas encore à un niveau pour avoir des subventions, ben, c'est vraiment une alternative à ce genre d'endroit, quoi.
On se trouve en plein, en fait, dans un problème d'accès à la culture, pas nécessairement pour le public, mais aussi, mais surtout pour les créateurs, quoi.
Oui, tout à fait, c'est ça. Et donc, le problème de ça, c'est que souvent, après, des artistes se retrouvent avec beaucoup d'envie, beaucoup de volonté, mais n'ont pas les moyens d'exercer leur art. Et voilà.
Et comment ça se fait qu'un immeuble si vaste, avec des espaces énormes, se trouve vide pendant tant de temps, alors qu'il y a plein de gens qui non seulement n'ont pas de logement, mais aussi qui manquent d'espace pour tout ce qu'ils voudraient faire? Tout ça est là, ça appartient à quelqu'un, donc on ne peut pas y entrer. Enfin, comment c'est possible, quoi?
Bah, c'est le gros problème de Bruxelles, hein. Il y a même un mot qui a été inventé, c'est la bruxellisation, ça veut tout dire. C'est la spéculation immobilière, c'est laisser pourrir les bâtiments, faire des trous dans les toitures. Après, le bâtiment est pourri, est insalubre, et on a le permis pour le démolir, et puis on construit autre chose dessus. Et c'est vraiment bien dommage, parce qu'ici, c'est vraiment des très très belles maisons, une très belle architecture. Enfin, vraiment, c'est un très beau patrimoine à conserver. Et malheureusement, voilà, les promoteurs sont au-dessus de ça et ont d'autres buts.
En l'occurrence, le promoteur, c'est un gros groupe anglais, c'est Heron City. Quel est ou quel était son projet pour le quartier ici? Parce qu'il s'agit en fait de tout un îlot juste à côté de l'avenue de la Toison d'Or.
Eh ben, son projet ici, c'était de raser les deux tiers de l'îlot. Et de construire un énorme centre commercial avec cinéma, piscine, commerce, etc. Alors que tout le monde sait bien qu'à la Toison d'Or, 20 mètres plus haut, il y a déjà un cinéma avec avec une vingtaine de salles. Enfin, il y a déjà tout ça, quoi. Donc, c'est vraiment pas un besoin du tout pour le quartier. Voilà, c'était vraiment un projet qui était déjà très mal parti pour ça.
Apparemment, avec la majorité précédente à Ixelles, qui était donc on se trouve sur le territoire d'Ixelles, qui était PRL, les contacts étaient assez bons. Donc vous, ça vous posait problème à l'époque, j'imagine?
Ouais, la majorité changeante a été un petit coup de bol quand même pour ça. Enfin, en tout cas pour le refus du projet, ça c'est sûr que ça a aidé. Mais ça n'empêche pas que la majorité changeante, donc maintenant arc-en-ciel, va quand même en arriver à nous expulser pour quelconque arrangement avec le propriétaire dont on ne sait pas grand-chose.
Mais pourtant, le projet initial auquel Heron City destinait l'îlot est abandonné. Donc, qu'est-ce qui fait que vous êtes de toute façon expulsé quand même?
Mais c'est la grande question et on se la pose. On sait qu'il y a un projet de réaffectation des bâtiments, d'une partie du bâtiment de l'îlot, qui serait, ces maisons seraient tenues par des AIS, donc des agences immobilières sociales. Mais c'est un projet qui est en route, donc c'est pas encore fait, c'est pas encore, y a rien. Je pense qu'il n'y a pas encore vraiment de choses dites clairement sur papier. Mais cette maison ne peut pas rentrer dans le cadre de ce projet-là parce que c'est des anciens bureaux, parce que soi-disant c'est plus insalubre, etc., etc. Que ça ne concerne, que ça rentre moins dans le cadre d'appartements type. Et c'est là que tout est. On pense que là est une partie du problème. Bon, il y a une deuxième partie un peu plus obscure, on ne sait pas trop pourquoi vraiment, mais on pense que déjà cette partie-là joue beaucoup. Alors que bon, ici, c'est quand même salubre. Enfin, je veux dire, il y a quand même moyen de se laver, de manger, de vivre. La preuve, bon, nous, on vit dedans, hein. Il n'y a pas de problème. On n'est pas non plus. On vit pas dans la crasse, quoi.
Vous n'êtes pas les seuls à squatter l'îlot et à protester contre cet état de fait. Il y a aussi le squat de la rue des Drapiers. Est-ce que vous pensez, enfin, est-ce que tu penses que vous, les squatteurs, aussi bien de la rue des Drapiers que de la rue des Chevaliers, ont créé une espèce de prise de conscience, disons au niveau politique, chez le propriétaire, ça m'étonnerait, mais qui a fait que maintenant on parle quand même de cette agence immobilière sociale, alors qu'avant, l'idée du projet était acquise?
Ouais, disons qu'il y a sûrement eu des remous, mais la rue des Drapiers, c'est très très différent de chez nous. Déjà, ils ne se considèrent pas comme squat, parce que bon, c'est vrai qu'en Belgique, la connotation squat a assez mauvaise.
Comment est-ce qu'on pourrait décrire aujourd'hui un squat dans la mouvance qui est la vôtre par rapport au cliché qu'en donnent les médias d'un espèce d'endroit à moitié en chantier où des types se retrouvent pour se piquer à l'Hérault?
Mais comment on pourrait le décrire? Mais c'est que c'est vraiment l'opposé de ça. C'est que c'est une maison comme une autre. Simplement, il y a un choix de vie un peu différent, c'est sûr. C'est sûr qu'on n'a pas le grand confort total. Mais il y a une semi-collectivité qui fonctionne à la maison. Mais bon, c'est ça. C'est un endroit constructif. Voilà. Donc, mais pour continuer par rapport à la rue des Drapiers, la rue des Chevaliers, la rue des Drapiers, ça a été directement un contexte très différent. Ils ont tout de suite appuyé, ils ont tout de suite pris des contacts avec la commune, tout de suite appuyé la défense du patrimoine, etc. Tandis que nous, ben, on est moins expérimentés aussi dans ce genre de démarche. C'est la première fois pour beaucoup de gens qu'ils participent à l'ouverture d'un squat comme celui-ci.
Vous considérez comme moins politisé ou pas?
Oui, beaucoup moins politisé, oui, bien sûr, ça c'est sûr. Mais surtout, on s'est plus cru un peu plus tranquille, peut-être, parce qu'ils étaient là. Et donc on a fait moins de démarches, mais on n'en pensait pas moins. Hein. C'était, voilà, c'était, on était là quand même pour défendre quelque chose. Et là, depuis un mois, on essaie de faire bouger les choses un peu, de prendre des contacts, etc. Mais bon, c'est pas évident.
Finalement, vous vous sentez comme des gêneurs. Enfin, je suppose que vis-à-vis du propriétaire, ça me paraît évident. Vis-à-vis du monde politique, ce n'est pas nécessairement le cas, mais c'est ma question. Et vis-à-vis des habitants du quartier, comment ça se passe aussi?
Vis-à-vis des habitants du quartier, je pense que ça se passe bien. Bon, mais il y a eu quelques petites plaintes pour du bruit, mais bon, parce que voilà, mais on a toujours essayé de faire de notre mieux pour le moindre problème. On essaie d'aller au-devant du problème et essayer de régler ça, parce que bon, ça c'est sûr que un grand bâtiment comme celui-ci, il y a de la vie, il y a du passage, il y a des gens qui toquent aux fenêtres, aux portes, qui sonnent, ça bouge quoi.
Mais
Hein.
vous avez tenté de nouer des contacts avec le quartier?
Oui, on a fait une journée porte ouverte, on a invité le quartier à venir voir les ateliers, on a ouvert les ateliers, on a fait un. Oui, on a ouvert la maison pour la faire visiter aux gens. Donc ça, on a essayé, bien sûr.
Quelles ont été les réactions?
Assez positive, mais on ne sait pas vraiment combien de personnes du quartier sont venues. On a eu beaucoup de monde, mais on ne sait pas vraiment si c'était des gens du quartier ou de l'extérieur. Mais la grosse publicité avait été faite dans le quartier. Hein. C'était quand même le but de la journée porte ouverte. Sinon,
Et le politique.
le politique n'est pas venu. On leur a envoyé les papiers, ils ont fait ouais, super, c'est super intéressant, mais bon, ils sont pas venus. Mais ça, voilà, c'est normal, ça, on s'en
Et
doutait.
comment vous vous sentez face à eux? Parce que quelque part, le projet est tout à fait cohérent et ceux qui se disent sociaux devraient apprécier ça, mais visiblement, ça ne se traduit pas tellement dans les faits.
Ouais, bah oui, mais bon, je crois que c'est toujours le même problème hein, avec par rapport à la politique, ils ont des obligations machin, des trucs comme ça. Enfin, je crois qu'on est vraiment dans une autre réalité aussi que leur réalité. Je pense que on est dans la même réalité pour le concret, c'est-à-dire que nous on tient le bâtiment, on est prêt à le tenir en bon père de famille, à prendre des assurances machin, à essayer de que ça rentre dans la réalité de tout le monde, mais notre réalité est quand même différente de.
Oui, en fait, vous avez fait des propositions constructives aux propriétaires. C'est pas uniquement une logique de rupture et on occupe votre truc et démerdez-vous. Quelles sont les propositions que vous leur avez faites?
Mais déjà, on a proposé de pouvoir signer un bail précaire pour que la responsabilité en cas de problème ici revienne sur nous et pas sur le propriétaire.
C'est quoi exactement en droit un bail précaire?
Mais ça se passe un peu comme un bail, sauf que c'est un truc plus fait à l'amiable et au feeling, mais c'est quand même écrit et c'est pour des plus courtes durées. Par exemple, on propose de rester un an et qu'après, il peut nous virer quand il veut, seulement quand il nous amène un papier 2 mois avant, etc. Et on discute et machin. Mais et ça, surtout, ça nous responsabilise par rapport au bâtiment. Donc, on est obligé, on se porte garant de l'électricité, de machin, de tout ça, des trucs, toutes des choses comme ça qui font qu'on tient le bâtiment en état. Aussi, retaper le bâtiment, les petits problèmes de toiture. C'est sûr, on sait pas refaire la toiture entière, hein, mais je veux dire, on est prêt à, si y a le moindre problème, ben essayer de nous d'abord de régler ça.
Mais c'est peut-être ennuyeux toutes ces propositions constructives pour quelqu'un qui veut laisser sciemment pourrir un bâtiment. C'est peut-être pour ça que vous l'emmerdez aussi, le propriétaire.
Voilà, ça c'est sûr, c'est sûr. Quoi. Bon, ça, il y a un grand exemple, c'est que rue d'Estassard, il y a 3 maisons qui ont été, qui sont vraiment des chancres, mais donc vraiment en très 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 mauvais état. Il y en a 2 qui ont brûlé, on ne sait comment. Il y a aussi, ça c'est assez important, au centre de l'îlot, il y a un concierge qui est payé par Héron City pour garder l'îlot, soi-disant, mais. En dessous de cette couverture-là, en fait, le concierge s'occupe à détruire les bâtiments. Donc, c'est-à-dire, il arrache les radiateurs, il arrache quelques cloisons, il retire les câbles des murs, des faux plafonds, des bureaux, il arrache les câbles, et il fait son petit commerce, quoi, avec ça. Mais bon, tout ça, enfin, voilà, quoi, hein,
Sous couvert de protéger le truc.
voilà, sous couvert de protéger le truc, quoi. Donc, et il a plus ou moins, il a plus ou moins démoli pas mal de choses dans les bâtiments. Du haut de la rue, et nous, cette maison-ci commençait à peine à être touchée. Et donc, on l'a prise juste à temps avant qu'il puisse commencer vraiment à faire des gros travaux de destruction dedans. Il a eu le temps de commencer. Bon, les radiateurs ne vont quand même plus. Il y a quand même 2-3 radiateurs arrachés, mais il restait encore 2-3 WC en fonction, plus ou moins. Et voilà.
Ce qui n'est pas clair par rapport à la différence entre ici les Chevaliers et le squat rue des Drapiers, c'est que ceux de la rue des Drapiers se montrent en fait plus revendicatifs, ont une action plus politique qui est susceptible de gêner un peu plus les autorités. Eux, ils ont eu un avis d'expulsion plus ou moins avorté et finalement, en définitive, on leur fout la paix, en tout cas provisoirement. Tandis que vous, vous êtes là juste. Dans une optique, on veut gêner personne, on gère ça en bon père de famille, on est là juste pour les ateliers, l'espace, etc. Et c'est finalement vous qui allez vous faire virer. Comment expliquer cette différence?
Mais déjà, la rue des Drapiers, comme j'explique, c'était vraiment très différent parce qu'ils sont impliqués tout le temps. Donc, comme eux, c'est vraiment leur finalité. Déjà, il faut retirer le mot squat de la rue des Drapiers parce que c'est vraiment. Ça montre vraiment bien la différence entre les deux. C'est que eux, c'est vraiment plus des appartements. Donc, ils ont chacun des appartements. Ils revendiquent le droit au logement. Et c'est leur finalité. C'est leur travail. Enfin, c'est vraiment leur finalité de ça. Et nous, c'était plus un outil. Donc, on s'est moins bougé par rapport à toutes ces démarches-là. Et c'est sûr que, bon, ben, à partir du moment où bon, ben, la presse passe, qu'on commence à se faire connaître, etc., comme ça s'est passé à la rue des Drapiers, ils ont commencé à bouger, à faire des pétitions, etc., ben, c'est sûr qu'il y a plus de chances de survie, ça c'est évident. Ça, c'était nous une autre démarche de ne pas faire grand-chose parce qu'on n'avait pas trop le temps, parce qu'on a tous nos activités, parce que bon, moi je travaille dans la musique et dans le théâtre, il y a d'autres gens qui travaillent dans la danse, machin, et donc on a tous des trucs à faire, il y en a qui sont encore étudiants, donc on n'a pas un temps plein à passer à la défense du lieu vraiment. Mais bon, on fait un minimum, quoi. Il faut, parce qu'il faut, parce qu'on veut garder ce lieu, quoi.
Mais vous êtes à une rue d'écart et vous avez quand même des projets assez similaires, avec des nuances. Pourquoi est-ce que vous vous mettez pas ensemble et qu'il n'y a pas une défense commune pour faire noyau face, face à ceux qui voudraient vous déloger?
C'est une bonne question. C'est une très bonne question et très difficile à répondre. Au début, on a commencé comme ça, je pense. Et puis petit à petit, ça s'est scindé parce que on sentait pour les démarches et les idéaux étaient un peu différents sur certains points. Je pense qu'on avait besoin d'un peu plus de liberté, je pense. Et surtout, le projet de rentrer dans une agence immobilière sociale qui, nous, ne nous correspond pas du tout. Parce que, bon, c'est pas du tout notre projet de rentrer là-dedans. On a quand même aussi une certaine envie d'autogestion, une certaine envie d'avoir des lieux de travail. Et c'est ce genre de choses qui ne peuvent pas rentrer dans une agence immobilière sociale. Ou sinon, il faut des assurances énormes, il faut des lois, il faut des portes coupe-feu pour la salle de danse. Il faut investir des millions. Et ça, c'est aussi un gros problème. Ça, c'est que souvent, dans la culture, on investit des millions à refaire les bâtiments. Et puis il n'y a plus grand-chose pour faire tourner le bâtiment, ou il n'y a plus grand-chose pour payer les artistes à venir, qui viennent utiliser le bâtiment. Ça aussi c'est un gros problème, ça c'est un peu généralisé en France, beaucoup aussi à Toulouse, il y a eu énormément ça. Et donc, enfin, moi je préfère utiliser un bâtiment un petit peu insalubre, mais un minimum où on sait qu'on peut quand même y être en sécurité, et où on le gère en bon père de famille, et mettre l'énergie à vraiment la création dans le lieu, qu'à mettre l'énergie à refaire le bâtiment, et puis quand le bâtiment est refait, bon, on ne veut pas non plus travailler dans une cuisine, quoi, dans une cuisine aseptisée, c'est pas intéressant, quoi, bon.
Tu parlais tout à l'heure de la presse qui était apparemment descendue en masse au drapier. Vous aussi, vous avez quand même eu des contacts avec, avec la presse. Comment ça se passe en général? D'abord, est-ce que la presse s'intéresse à votre cas et éventuellement aussi au projet Héron et qu'est-ce qu'elle en dit?
Je lis pas beaucoup la presse, déjà. C'est pas trop mon truc. Mais là, c'est bien soutenu, je pense, le drapier. Pour nous, c'est assez nouveau. Ça fait seulement quelques. Bon, oui, la TV Bruxelles est venue plusieurs fois. Mais TV Bruxelles a suivi le procès et un peu toute cette démarche-là. Mais sinon, vraiment, pour la défense du lieu, ça commence seulement un peu à bouger à ce niveau-là. Et on attend toujours les articles, donc on sait pas vraiment quels sont les avis. De la presse à
Et
ce niveau.
pourtant, il y a un peu urgence parce que l'avis d'expulsion, c'est pour le tout début du mois de juin. En tout cas, à partir de cette date-là, vous êtes expulsable. Et je suppose que l'expulsion effective risque de ne pas trop tarder. Face à cette échéance assez proche, quels sont vos projets? D'abord, est-ce que vous êtes sûr de vous faire expulser?
Y a beaucoup de chance. Oui, on pense qu'il y a quand même 90% de chance, 95% de chance qu'on se fasse expulser.
Tout d'abord, comment ça se passe concrètement une expulsion?
Une expulsion, eh ben, la police vient, elle rentre dans le bâtiment, elle met les occupants dehors avec leurs affaires, et puis elle ferme le bâtiment.
Et tout dépend des occupants, si ça se passe calmement ou pas.
Voilà, ça c'est ça, c'est ça. Bon, c'est sûr qu'ici on va pas commencer à foutre le feu au bâtiment, etc. Mais on va pas se laisser faire non plus, ça c'est sûr. C'est sûr que on a quand même une revendication du lieu, il y a quand même une énergie commune dans ce lieu et qu'on va pas partir comme ça.
Et avant d'en arriver là, qu'est-ce que vous allez faire pour essayer que cette expulsion n'ait pas lieu, justement?
Mais donc c'est ça, donc on essaye encore de recontacter un peu la commune, voir comment ça se passe. On a envoyé une lettre au propriétaire en demandant un nouveau lieu, en lui expliquant que si il nous proposait un autre lieu pour notre projet, on était prêt à sortir du bâtiment sans faire de scandale, on va dire. Donc maintenant ça c'est à voir quoi. Même il y a peu de chances je pense qu'il nous donne un autre bâtiment. Hein. Bon,
En même temps, apparemment, aujourd'hui, le projet de Heron City, c'est de vendre plutôt que de faire cette idée de complexe commercial qui a été abandonné. Dans cette optique-là, ce serait peut-être bien pour eux si vous gardiez ce bâtiment-ci ou un autre qui vous proposerait en bon père de famille, comme tu dis, pour un peu préserver ça de son destin de chancre.
Oui, bien sûr, c'est ça. Je sais pas encore si Heron City, je sais pas vraiment quel est le projet d'Heron City maintenant que le gros projet de centre commercial est tombé à l'eau. Je sais pas, je sais pas trop leur nouveau projet. Je sais pas si c'est vraiment vendre ou bien si c'est réaménager. Je suis plus trop au courant des dernières informations qui viennent de tomber. Mais en tout cas, c'est sûr que si nous on part, d'autres gens vont venir à notre place et peut-être des gens beaucoup plus mal intentionnés et que les bâtiments vont peut-être être encore plus détruits. Enfin, bon, il y a eu des problèmes comme ça, rue de la Toison d'Or. Il y a des gens qui ont investi des lieux comme ça, mais c'était plus plus à l'arrache, on va dire quoi, plus beaucoup plus sauvage. C'était plus repère de tox, etc. Et bon, ben, il y a eu de la baston, il y a eu des coups de couteau, il y a eu des machins, il y a eu des cambriolages dans une bijouterie qui était juste à côté. Enfin, c'est une grosse preuve comme quoi il faut laisser ces bâtiments occupés, mais avec des gens responsables. Et ça, bon, j'ai l'impression que, je sais pas, c'est hors de leur portée, je sais pas.
Ouais, ça passe pas, quoi.
Ça passe pas, non.
Si vous vous retrouvez effectivement à la rue, les 15 qui habitent ici, plus finalement tous les autres gens qui fréquentent l'endroit, qu'est-ce qui va se passer?
Ce qui va se passer, c'est on est quand même assez positif, hein. On espère quand même que la commune va se bouger un peu avec nous pour pouvoir nous trouver une alternative, au mieux trouver un nouveau lieu. Et sinon, bah, nous, on ira à la recherche d'un nouveau lieu.
C'est un peu un jeu du chat et de la souris, non?
Voilà, c'est ça, ouais, c'est un peu ça, quoi.
Tu parles de réouvrir un lieu. Est-ce que c'est difficile de trouver un endroit qui présente suffisamment d'espace et suffisamment de place pour tous les gens qui veulent y être et leurs activités, et qui en même temps est tout à fait habitable, encore en relativement bon état?
Mais déjà, je veux pas parler de réouvrir un lieu. Je suis pas encore. Pour l'instant, il y a ce lieu-ci, on défend ici, et je suis pas prêt à partir d'ici. Maintenant, je sais concrètement que ça se passe généralement un peu différemment, mais je suis vraiment pas prêt à partir d'ici. Donc, ça veut pas dire que dans 2 semaines, je suis dehors et qu'on est dehors, quoi. C'est sûr qu'on va, on va tout faire pour pouvoir rester d'abord. Ça, il faut que ce soit clair là-dessus. Nous, on veut rester. Après, ouvrir un lieu, bah, c'est bon, c'est ça, c'est de l'énergie, c'est repérer des bâtiments, c'est.
Mais on en trouve?
Oui, ça, oui, ça, il n'y a pas de problème. À Bruxelles, il y en a. Hein. Bon, il y en a des plus pourris que les autres, mais il y en a un bon paquet. Hein.
Pourtant, théoriquement, il y a une taxe sur les lieux qui restent vides qui est censée inciter les propriétaires soit à vendre, soit à occuper les lieux, soit à les faire occuper. Comment est-ce que tu expliques que dans un cas comme ceci, où la taxe ne doit pas être minime puisque l'espace est grand, que cette taxe ne soit absolument apparemment pas dissuasive?
Mais pour les gros propriétaires comme celui-ci, je pense que c'est vraiment pas dissuasif parce que de toute façon, ils parlent en tant que millions et peut-être milliards et que les taxes sont minimes par rapport à ce genre de budget. Donc c'est des petits problèmes de rien du tout. Je pense pas que vraiment que ça soit un problème. Mais surtout, je pense aussi que la taxe n'est pas vraiment appliquée dans tous les cas. Je pense que c'est dans la loi, il y a la taxe à faire appliquer, mais j'ai entendu dire qu'elle n'était pas toujours appliquée, qu'il y avait parfois des histoires comme bon, allez, tu me laisses ça, moi je te laisse ça, machin, et que la taxe n'était pas réellement appliquée à tous les bâtiments vides, quoi.
Mais en clair, ça dissuade surtout les propriétaires individuels, les personnes
C'est
physiques,
ça,
quoi.
ouais, c'est ça. En fait, je pense que c'est plus fait pour les petits propriétaires, ceux qui ont deux, trois bâtiments vides, pour les inciter. Mais pour les grands propriétaires comme celui-ci, je pense qu'ils sont même pas touchés par ce genre de taxes.